Le beau Serge est arrivé. Allô, Serge.
Bonjour, Jocelyne.
Serge Capitran, aujourd'hui, tu parles de Dieu?
Oui, hein? C'est la question qui a passé à travers les lèvres de mon grand garçon. Il a entendu parler de ces histoires-là. Puis, un moment donné, il me regarde, papa, je comprends pas pourquoi que les gens croient en Dieu. Pourquoi ça existe, toute cette histoire-là, tu sais? Alors, pourquoi croire en Dieu? C'est la question qu'il m'a posée.
OK, donc la petite chronique « Pourquoi papa? »
Exactement. Donc, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui m'a pris un peu au dépourvu. Nous, à la maison, on n'est pas pratiquants comme tel, donc il n'a pas reçu cette éducation-là, quoi, qu'il connaît l'histoire, parce que Pâques a passé récemment, puis on entend parler. Mais bon.
Il connaît l'histoire par qui?
Parce qu'il a vu l'école, les films aussi, à la télé. Okay. L'histoire de Dieu a passé à la télé, okay. Donc il a perçu ça. Mais pour lui, ça ne correspond pas à grand-chose, puis il se demande beaucoup pourquoi les hommes croient quand même encore beaucoup à ça. Mm-hmm. Alors, devons-nous croire en Dieu? C'était la question. Eh bien, pour la plupart des professeurs de philosophie des grandes universités, eh bien non, il ne faudrait pas croire en Dieu. Selon une étude menée dans 99 universités anglo-saxonnes, seulement 14% des philosophes seraient des hommes de foi. Et la situation est encore plus nette chez les scientifiques. Les membres de l'Académie nationale des États-Unis sont seulement 7% à avoir des croyances religieuses. Ce qui est quand même surprenant dans un pays où il existe encore 7 États, où si vous voulez occuper une fonction officielle, vous devez être croyant.
OK. Est-ce que c'est toute religion confondue?
On parle du christianisme.
On parle du christianisme, d'accord.
Alors, il y a 300 ans environ, c'était pas une question. La croyance en Dieu était universelle, y compris parmi les savants et les instruits. Tout le monde y adhérait. Mais ça a changé beaucoup, par la suite du développement de la science moderne et de la capacité à l'homme aussi à dominer, à comprendre la nature par l'usage de la raison. Les croyances et autres révélations et doctrines religieuses sont souvent aujourd'hui considérées par la majorité des grands intellectuels comme des légendes pour enfants et des créations humaines afin de conforter des pouvoirs eux aussi très humains. Mais la génétique et les comportements humains jouent un rôle quand même considérable dans toute cette histoire-là. L'attirance universelle qu'exercent les croyances religieuses a une origine biologique que confirme la science. Il y a un consensus scientifique pour considérer que la façon dont notre cerveau réagit est notamment le fruit de la sélection naturelle, qui est un concept quand même assez connu. Alors, quel rôle dans la survie et la reproduction ont donc joué les pratiques et les croyances religieuses? Eh bien, il y a deux types d'explications. La première est que la religion donne un avantage en termes d'évolution. Elle a pu contribuer à augmenter la cohésion sociale des groupes humains et donc à améliorer leurs chances de survie. La seconde explication, c'est que les croyances et les pratiques religieuses sont la conséquence de d'autres capacités d'adaptation issues de la sélection naturelle. Par exemple, l'intelligence contribue à la survie et la façon dont l'intelligence humaine fonctionne consiste à lier les causes et les effets et souvent à postuler l'existence de d'autres esprits derrière ces causes et effets. L'idée des dieux expliquant les phénomènes naturels à l'époque pourrait donc être née de cette manière-là. Et puis, il y a des facteurs psychologiques. Le monde qui nous entoure prouve en permanence le progrès permis par la science et la raison, mais ça n'empêche pas certains gens de préférer les pseudo-sciences et les superstitions. La réponse simple est que les gens croient ce qu'ils veulent croire et ce qu'ils jugent réconfortant, pas ce que les preuves réelles démontrent. Donc, en général, les gens ne veulent pas savoir, ils préfèrent croire.
Ouais.
Il y a des facteurs sociaux aussi qui interagissent avec tout ça, des facteurs qui jouent aussi un rôle important dans les croyances religieuses. Les religions sont évidemment un facteur de pouvoir, et ça, on s'en est rendu compte quand même, et également une façon de gérer une partie des dysfonctionnements de la société. De les rendre plus supportables, de les justifier parfois, sans nécessairement les corriger. Et puis aussi, même s'il n'y a aucun lien de causalité qui a été établi, si on regarde la liste des Nations Unies, ou les 20 pays au monde où la qualité est la meilleure, on retrouve généralement les nations où le poids de la religion est le plus faible. À l'inverse, la grande majorité des pays en bas de cette liste sont considérés comme très religieux. Donc, il y a des sérieuses raisons de douter que la religion améliore la vie. Y a-t-il un lien entre la religion et le bien-être? Ça, c'est une bonne question. Il ne fait pas de doute qu'une des fonctions majeures est d'apporter la paix, la sérénité face aux épreuves de la vie. Dans l'ensemble des enquêtes statistiques, semble confirmer que la religion favorise le bien-être. Par exemple, une étude portant sur plus de 160 000 Européens montre que parmi les pratiquants qui vont à la messe à toutes les semaines, il y a 85% de ces gens-là qui se disent très très satisfaits de leur vie, alors que le pourcentage tombe à 75% pour les gens qui ne vont pas à l'église. Alors, comment expliquer ce lien entre le bien-être et la religion? Ben, certains psychologues avancent trois types de facteurs. Il y a le support social. L'adhésion religieuse n'est pas qu'un phénomène de croyance individuelle, mais ça implique aussi l'intégration à des groupes de croyants et pratiquants qui appartiennent à des, qui apportent un soutien psychologique et social. Il y a aussi le sens à la vie. Ça, c'est bien connu. Si tu as un sens à ta vie, tu vas te sentir mieux. Alors, le bonheur et le bien-être augmentent quand tu possèdes un sens. Quand ta vie possède un sens, une finalité, une raison d'être, et beaucoup de gens retrouvent ça dans la religion.
Okay.
Et puis, il y a les expériences religieuses proprement dites. La religion offre des expériences émotionnelles. Par exemple, le sentiment d'être en communication avec Dieu. Ça peut nous sembler assez métaphysique, mais ça apporte, pour quelqu'un qui y croit, un vif sentiment de plaisir et beaucoup de valeur personnelle. Et puis aussi, il y a l'aspect de la guérison dans la plupart des religions. Les cultes comportent des composantes thérapeutiques. Donc, dans les sociétés traditionnelles, on allait voir le chaman ou le medicine man pour soigner toutes sortes de troubles. Dans les religions antiques, on faisait des sacrifices aux dieux dans l'espoir d'une certaine guérison. Et puis, dans la plupart des religions actuelles, ben, on entend des prières, des pèlerinages, des sacrifices, pas des sacrifices humains, mais des sacrifices, des empêchements, des contraintes, si on peut dire. Tout ça pour aider à la guérison. Alors, la religion soigne-t-elle vraiment? Ben, les études sur l'efficacité donnent des résultats, bien entendu, controversés. Lorsque ça marche, les croyants ben, pensent aux miracles, et puis les sceptiques vont invoquer les coïncidences. Il y a l'effet placebo, l'efficacité symbolique, plein de trucs comme ça qui entrent en ligne de compte. Alors, les études sur le culte de la guérison montrent que la médecine spirituelle ne vise pas forcément un bénéfice réel sur la santé, mais le succès tient surtout au soutien moral et social non négligeable qu'elle apporte aux malades. Et puis, dans certains pays où les structures de soins sont défaillantes, ben on comprend que les pauvres se tournent souvent vers les prêtres médecins qu'offrent ces religions traditionnelles. Évidemment, les liens entre la psychologie et les religions montrent eux aussi que la religion sert tout simplement à vivre et non pas à mourir. Donc, l'objectif est très différent. Excuse-moi. Alors, pourquoi l'humanité passe-t-elle son temps à inventer des entités surnaturelles et leur prêter un rôle aussi crucial? Ben, une explication est apportée par un courant récent des sciences humaines marqué par le cognitivisme. Et puis, pour les cognitivistes, notre esprit n'est pas une page blanche au début lorsqu'on est, qui s'emplit peu à peu par l'éducation, tantôt d'intelligence, de raison, de superstition, mais c'est un organe hérité de l'évolution, structuré dès la naissance et déterminé dans son fonctionnement comme dans sa production. Ainsi, s'il produit des dieux, c'est qu'il est construit de manière à en produire. Beaucoup d'hypothèses sont avancées en ce sens qui méritent d'expliquer la constance qu'ont les humains inventée du surhumain. Parce que l'homme a longtemps dû fuir les prédateurs, la sélection naturelle a favorisé chez nous la capacité à percevoir des présences et des agents intentionnels autour de nous, à tel point qu'on en crie même s'il n'y en a pas. Nous produisons sans cesse l'idée potentielle religieuse, la plus commune étant de prêter des intentions, des qualités humaines à des objets inanimés. Ces idées-là souvent disparaissent aussitôt pour la plupart, mais les plus efficaces vont se propager à la manière d'un virus culturel, parfois jusqu'à donner naissance à des civilisations entières. Fait que ça, si on fait un retour sur l'histoire, on peut s'en rendre compte. Alors, si l'esprit humain produit des dieux comme la gorge produit des sons, il faut accepter que tant qu'il y aura des hommes, il y aura des dieux. Et il semble naïf de penser que ces puissantes créatures qui délimitent les communautés humaines depuis qu'il y en a pourront être reléguées au rang de simples fantaisies. Beaucoup de discours laïcs semblent reposer sur l'idée que la religion est une passion mineure optionnelle, mais la fameuse laïcité devrait peut-être se débarrasser de la certitude que nous dirigeons vers un monde sans Dieu, un monde qui n'a encore jamais existé.
On a matière à réflexion et à discussion, mon beau Serge.
Ah oui, c'est un domaine très, très vaste. Alors, j'ai tenté de résumer ça, mon fiston, mais bon.
Merci à toi.
Merci.
À dans 2 semaines. Bye-bye.
Bye-bye.